6h04, nous sommes mercredi 23 septembre. Bonne journée, bienvenue au 88.5 FM. Prévisions météo qui, je dirais, vont dans la continuité. On a un ciel qui est un peu couvert ce matin, c'est 12 degrés, mais rapidement le soleil va s'installer en alternance avec les nuages. On prévoit un maximum de 23 pour aujourd'hui. Demain, jeudi, soleil-nuage 22. Vendredi, 18 degrés, soleil-nuage. Même samedi, on prévoit du soleil 25. Et dimanche, un peu moins beau, de la pluie autour de 21 degrés. Bon, le dossier COVID, c'est bien sûr le dossier qui monopolise l'actualité. Je vais essayer d'être le plus clair possible ce matin pour voir un peu où on en est. D'abord, je pense qu'on a la confirmation que la deuxième vague est amorcée. Ce qui veut dire donc qu'il y a des régions qui se sont ajoutées, Laval, qui sont passées en code orange. Il n'est pas impossible, a dit le docteur Arruda, que dans les prochains jours, des régions tombent dans le code rouge, avec des mesures de confinement qui restent à déterminer. Parce qu'on voit, là, puis j'ai écouté le point de presse hier du docteur Arruda, à l'intérieur d'une couleur, il peut y avoir différents paliers. Et je sais que pour beaucoup de gens, ça signifie de la confusion. Moi, je veux bien jouer dans les virgules, là. Je comprends le principe de base. Le principe de base, il y en a même quelques-uns, principe, là. Le masque dans les endroits publics, fermé. La distanciation, on n'apprend rien là, là. Puis ce qu'on vous demande, c'est de limiter le nombre de personnes chez vous. Pas de party, maximum 6 personnes. Puis là, je le sais, on peut jouer le nombre de familles. Puis là, j'ai 3 enfants, je peux-tu en rentrer 7, 8? T'sais, on peut gosser jusqu'à demain, là. Mais le principe, c'est quoi? Le principe, c'est pour les prochaines semaines. C'est plate, c'est pas le fun. Mais il faut limiter le nombre d'activités sociales qu'on a et le nombre de personnes qui participent. C'est ça le principe global. D'où la notion de 6. Premièrement. Deuxièmement, ça c'est plus sérieux quand on parle de confusion, ce sont les propos du docteur Arruda hier au sujet de pouvoir qu'on cherche à donner à la police pour leur permettre d'entrer dans les maisons. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs cas, foyers d'éclosion, qui découlent de parties privées. Donc, comment on fait pour intervenir? La police ne peut pas rentrer chez vous comme ça. La police ne peut pas aller sur votre terrain à moins de circonstances exceptionnelles. Si on est convaincu que quelqu'un est en danger, si on est convaincu que, je sais pas, quelqu'un est en train de se faire battre, bon. Sinon, ça prend un mandat. Et actuellement, ce que la loi prévoit, puis de la jurisprudence, puis on va parler avec M. Denis Galland tantôt, tu peux cogner à la porte, demander poliment au propriétaire de la résidence, on a eu une plainte, est-ce qu'on peut entrer? Il peut vous dire non. Et là, comment vous allez appliquer la loi? Il y a des moyens de faire, mais c'est loin d'être simple, puis il n'y a aucune garantie. Donc, le docteur Arruda a contribué hier à la confusion. Hier, j'avais comme un malaise, je vais vous dire. Je reconnais là, ses qualités, ses compétences, mais le problème, c'est qu'il aime beaucoup jaser, il aime beaucoup être devant le Kodak, puis des fois, ça donne de mauvais résultats. Christian Dubé était clair hier. Docteur Arruda, c'était une zone un peu plus confuse. L'autre point qui est important, c'est la capacité non seulement de tester, mais de retracer les cas. Et le constat qu'on peut faire, c'est que, je regardais certains chiffres ce matin, là, notamment dans le journal de Gazette, où on s'interroge sur la capacité de faire cette recherche-là, surtout qu'on parle d'une deuxième vague. Et on cite la directrice de la santé publique de Montréal, Dr Drouin, qui disait lundi que dans un cas, ils ont été capables de retrouver seulement le tiers de 512 contacts possibles durant le week-end. Donc, plein de gens à qui on aurait aimé parler, vérifier, qu'on n'est pas capable de joindre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé des bras, parce qu'on manque de bras, pour le dépistage. Et ça a rappelé quand même l'invitation du printemps du premier ministre Legault. Et là, on demande des gens, des spécialistes, là, un peu, des dentistes, diététistes, nutritionnistes, orthophonistes, physiothérapeutes, peut-être des gens qui sont à la retraite, pour donner un coup de main, pour être capable de bien cerner les éclosions. Alors, ça, c'est le constat de base. Et on va voir comment la situation va évoluer en termes de cas, avec toujours la possibilité que des couleurs changent. Et qu'est-ce qu'on demande aux Québécois? C'est d'être, sur le plan, je dirais, personnel, conscient, responsable, puis respectueux des autres. Parce que porter le masque, on le sait, pas agréable en soi, là, mais c'est, en théorie, pour protéger les autres, puis selon certaines études, ça te protège un peu toi aussi. L'autre élément qu'il faut également regarder ce matin, c'est ce qui se passe dans les écoles. Parce que je vais vous donner ce matin quelques chiffres d'un cas. C'est un cas, là, mais il y a pas mal d'écoles qui sont touchées. C'est la polyvalente Hyacinthe Delorme. C'est à Saint-Hyacinthe. Actuellement, 15 cas de COVID-19 ont été confirmés. Tous les élèves proviennent du même groupe classe. Tous ceux qui ont eu un diagnostic positif sont en isolement. La santé publique a déterminé que l'ensemble d'une classe et plusieurs élèves du transport scolaire ont pu être en contact avec l'un ou l'autre des élèves ayant la COVID-19. Au total, 364 élèves sont actuellement en isolement préventif. C'est du monde, ça, là. 364 élèves, une seule polyvalente. À partir de 15 cas dans une classe. Et ça, ça veut dire, pour beaucoup de parents, un casse-tête infernal. Je pourrais vous sortir une liste de courriels de parents qui tentent de s'organiser, famille monoparentale, les deux travaillent dans un autre cas. Puis là, vous allez me dire au secondaire, mais au secondaire, là, t'aimes pas ça laisser l'ado tout seul à la maison. Puis est-ce qu'on a accès à l'enseignement virtuel? Sûrement pas la première journée. Alors, c'est sûr que l'année scolaire, c'est un peu, là, chambranlant. Et peut-être que les cas vont aussi s'additionner, malheureusement. Et sérieusement, je regardais ça hier, puis je me disais, me semble que c'est pas si compliqué que ça. Me semble que ça peut se faire de façon intelligente. Quand je vois les images du fameux restaurant de Laval, tu dis, t'as une bande d'inconscients, puis ça a pas de masque, ou ça met le masque quand la police arrive. Puis je peux pas croire que le propriétaire ou le gérant de l'établissement n'a pas pris des mesures. Là, on nous dit que la police de Laval a ouvert un dossier là-dessus. Mais ça, c'est le parfait exemple de niaiserie. Vous savez, puis prenons le fameux bar Kerouac à Québec, là. On a vu l'effet domino. Puis je pense que c'est une responsabilité qu'on a tous, justement, de faire cet effort collectif pour limiter les dégâts. Et le gouvernement a décidé, vous voyez ça sur Radio-Canada ce matin, on le savait, là, que c'était en préparation, mais on prend des patients qui ont eu la COVID, puis des patients qui ont eu des séquelles. Exemple, un monsieur trachéo, puis un monsieur entrepreneur en construction. Puis là, il t'explique c'est quoi la COVID. Il se ramasse à l'hôpital, puis il se ramasse dans le coma. Quel sera l'effet de cette pub? J'en ai aucune espèce d'idée. J'ai des doutes. Des pubs pour faire peur, ça fonctionne beaucoup auprès de gens qui sont déjà convaincus ou qui ont déjà peur. Puis à cet égard, les pubs d'assurance automobile, là, rappelons-nous des messages percutants, là, il y en a eu. Là. Mais la clientèle qui était visée était pas mal, je dirais, hermétique. Ça passait pas. Les jeunes à qui je parlais de ces pubs-là me disaient hey, « Arrête, là. On sait que des comédiens pour la plupart, puis bon. » Alors, qu'est-ce que ça va donner? Puis là, je comprends, la volonté du gouvernement, c'est de faire peur au monde pour faire prendre conscience, pour avoir des comportements qui soient, disons, adaptés. Est-ce que ça va marcher? Vous allez les voir, les pubs. On verra bien. Mais c'est comme une espèce d'offensive que va lancer le gouvernement du Québec. 6h presque 14, M. Brière, quels sont les points chauds? Très bien. Quelques éléments pour compléter ce dossier-là de la COVID. Là. Radio-Canada qui nous dit qu'il y a encore des déplacements de personnel entre les centres de soins de longue durée, puis qu'il y aurait de la confusion au ministère. les préposés aux bénéficiaires ne sont pas supposés passer d'une zone à l'autre et encore moins d'un établissement à l'autre. Mais ça arrive. Encore, ça persiste, parfois même entre zones chaudes et froides. Et ce n'est pas complètement interdit. Et on attend encore des précisions du ministère de la Santé sur l'application. Et là, les gestionnaires, eux, ce qu'ils disent, dans certains cas, ils sont capables. Là. On donne l'exemple, je pense, c'est Laval, où on était capable de s'organiser. Mais dans d'autres cas, c'est un manque de personnel. Hier, on disait quoi? 2000 personnes à peu près qui manquent. Là. Ils sont en congé pour toutes sortes de raisons. Ça veut dire qu'en pratique, on continue de jouer avec le feu, là. Je comprends que c'est peut-être difficile, mais en même temps, ça n'a pas de sens là, qu'on se promène d'une zone à l'autre alors qu'on nous explique qu'on est actuellement dans une deuxième vague. Je voudrais aussi partager avec vous certains courriels de gens terrain qui m'écrivent, et je trouve ça intéressant. C'est un monsieur qui m'écrit, qui a entendu l'information, l'entrevue hier avec le docteur Champagne, des oncologues, sur le nombre de cancers que le Québec a échappé parce qu'on a reporté des examens. Les gens ne voulaient pas aller subir des tests. Donc, des cas de cancer qui, malheureusement, sont pris trop tard avec, comme pronostic, davantage des soins palliatifs en vue que l'espoir d'une rémission, d'une guérison. Alors, la personne qui m'écrit est une pathologiste qui est affectée au diagnostic des cancers. Travaille principalement à la détection de cellules cancéreuses dans les biopsies, cytologies et les cas de chirurgie. Je la cite, « Nous avons eu une baisse significative de notre volume d'activité depuis mars, tant au niveau des cas en chirurgie qu'au niveau des tests de dépistage, endoscopie, biopsie de prostate, biopsie du sein. Au-delà de la charge de travail qui n'est qu'une fraction de ce qu'on faisait, nous remarquons un changement dans le type de cas que nous recevons. Entre autres, nous avons remarqué une tendance de plus en plus marquée vers des diagnostics tardifs avec des signes que le cas est probablement rendu à l'étape des métastases, donc en phase extrêmement avancée. De plus, la plupart de nos cas proviennent de gens qui ont maintenant des symptômes. C'était le contraire auparavant. Je suis extrêmement inquiète pour les cas de cancer au Québec. J'ai l'impression de retourner 25-30 ans en arrière dans le temps qu'un diagnostic de cancer égalait une sentence de mort. On se dirige rapidement dans cette direction. » Ça, c'est quelqu'un de terrain, là. C'est sa job tous les jours de faire ça et arrive à ce constat. Et quand on parle des patients qui sont non-COVID, c'est vrai dans les cas de cancer, mais c'est vrai, je le disais, pour d'autres spécialités. C'est un exemple. Et ce matin, dans la presse, on nous dit qu'on va assouplir les règles, justement, pour les gens qui sont en fin de vie. Des personnes qui sont mortes seules au printemps, ça ne peut plus arriver. Donc, on va encadrer, on va peut-être limiter le nombre, mais c'est pas vrai qu'on va laisser les gens mourir puis qu'il va falloir négocier une permission spéciale pour être avec sa conjointe, son père, sa mère, en fin de vie. C'est au moins de ce côté-là une bonne nouvelle. Rapidement, je regarde d'autres informations. J'en reviens pas, mais ça existe. Il y a des faux bonbons qui contiennent de la cocaïne et des benzos qui circulent au Québec. Et c'est des bonbons, là, tu sais, le genre de petits bonbons que tu mets dans un distributeur de plastique avec. Puis tu pèses là-dessus, puis des enfants, c'est vieux comme Mathusalem, cette affaire-là. Là. Des bonbons pèsent. Et les policiers disent aux parents, attention. Plus de 300 bonbons ont été saisis à Grimbé au mois de juin lors de perquisitions. Et un enfant qui tombe là-dessus, là, ça peut le tuer ou en tout cas causer des dommages importants. Alors, il faut être évidemment conscient de ça. Je suis toujours du coin de l'œil le procès du pasteur Monette et de sa charmante épouse suite aux plaintes déposées par les enfants. Et on sait qu'ils ont plaidé coupables. Et madame, qui s'appelle madame Carole Van Hout, elle blâme ses enfants d'avoir porté plainte. Imagine-toi, tu maltraites tes enfants, puis tu te serais quoi, attendu à ce que tes enfants t'en parlent, alors que tu pensais avoir l'éclairage divin, puis ça te permettait de fesser des enfants. Alors, elle a, je cite le Journal de Montréal, « Jamais j'aurais pensé amener mes parents en cours. Moi-même, j'ai été battu, mais j'aurais pas pensé ça. » Elle dit que de se retrouver devant la justice en raison de dénonciation de ses enfants, ça n'a aucun sens. Pourquoi n'est-il pas venu me voir à la place d'amener ça en public? Ça, c'est typiquement un réflexe où, dans la famille, il y a de la violence. Il ne veut pas défaire la famille, il ne veut pas porter plainte. La victime devient un odieux personnage. Combien de gens se font manipuler par les abuseurs en disant « Tu ne peux pas avoir fait ça, tu vas diviser la famille, c'est épouvantable. » Alors que c'est, pour les victimes, souvent la seule façon d'être capable de s'en sortir. Ça fait beaucoup le tour de nos manchettes. Peut-être juste pour conclure, je lisais ça ce matin, là. Tu sais, on parlait des fausses pubs avec Denis Coderre puis des compagnies dont on ne connaît pas vraiment les modalités de fonctionnement, là, mais qui apparaissent sur le web, qui font de la fausse publicité. C'est des arnaques, puis il y a des gens qui embarquent là-dedans. Là, il y a quelqu'un qui vous offre, tenez-vous bien, la pilule bonheur. Alors, c'est une pilule qui est dénoncée, en tout cas, le marketing est dénoncé par l'Ordre des pharmaciens du Québec. C'est pas efficace. Est-ce que c'est bien dur à comprendre qu'une pilule donne pas le bonheur, là? Alors, c'est la compagnie Emotion Lab qui vend ça, en disant que ça aide à gérer votre stress et augmenter votre bonne humeur. Ça se vend 50$ pour 60 pilules de bonheur. Et le propriétaire de l'entreprise, quand on lui demande ce qu'il y a là-dedans, c'est une espèce de dérivé du thé. Il ne peut pas croire que le monde embarque dans ça. Et il reconnaît, bravo champion, que c'est un marketing qui est peut-être un peu agressif, voire même dangereux, qui peut laisser sous-entendre. C'est quelqu'un là, un peu désarmé, un peu naïf dans la vie, ben, il va penser que le bonheur, c'est 50$ la bouteille. Malheureusement. 6h22. On retourne à Terrebonne.